Alors, si vous voulez vous lever, on va lire Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je vais vous asseoir. Alors, on a vu la semaine dernière la première partie, le jugement dernier, son caractère. On va vraiment le revoir pour se remettre dans le contexte. Parce que dans le fond, des fois, je coupe les passages en deux parties, parce que je n'ai pas le temps de donner. Sinon, ça serait des prédications d'une heure et demie, deux heures. Là. Alors, on va... je pense que c'est nécessaire de faire un petit résumé. On va le faire très bref, de manière à ce qu'on... On raccorde ce qu'on va regarder aujourd'hui avec ce qui a été dit précédemment. Alors, on a vu dans les passages précédents des choses. Dieu avait amené des jugements. Il avait détruit Babylone la Grande. Il avait pris l'Antichrist et le faux prophète. Il les avait jetés dans les temps de feu. Satan avait été jugé et jeté aussi dans les temps de feu et de soufre. Il restait une chose à détruire, la mort elle-même. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, le jugement, on est en train d'étudier le passage du jugement dernier. Alors, il est universel, ça veut dire tous les hommes, sans exception, de toutes les époques. Alors, c'est vraiment énormément de monde, c'est des milliards de personnes. Et simultané, donc, nous, on croit que l'interprétation amillénariste, donc amillénariste, il n'y a pas deux résurrections. C'est la résurrection générale, les bons, les méchants, les justes et les injustes en même temps. Et c'est là qu'est décidée leur destination éternelle, leur destinée éternelle. Très important de se souvenir de ça. Et on sait aussi que lorsque cette chose-là arrive, les hommes ne sont pas jugés dans leur âme, sont jugés avec leur corps. L'âme est réunie avec le corps, ils sont jugés, c'est une résurrection qui se fait dans le corps. On avait vu que dans les versets 11 à 12, que le jugement dernier, concernant son caractère, c'est que ça avait été prophétisé dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Et c'est aussi une autre caractéristique, c'était solennel, soudain et final. Qui peut comprendre la solennité du jugement dernier? C'est vraiment difficile, très difficile à imaginer, mais on sait que ça va arriver. Et ça va être soudain, donc c'est quelque chose... Soudain, c'est quelque chose comme quand tu as un accident. Tu en viens sur la route, paf, tu frappes quelque chose. Hein? C'est très soudain. Et c'est aussi final. Donc c'est l'événement qui va arriver final. Et on avait vu aussi une autre caractéristique, c'est que c'était révélateur. Ça vient révéler des choses sur qui est Dieu et ça vient révéler des choses sur qui est Jésus-Christ. On avait regardé ça. On avait vu aussi que c'est la résurrection à la fois, c'est corporel, bien important, à la fois des justes et des injustes. Et il va y avoir le jugement des œuvres des croyants. Donc nous, on a fait des œuvres depuis qu'on est chrétien. Pas normal qu'on ait fait 40-quelques années, ou 20-quelques années, ou 30-quelques années, qu'on n'ait rien fait pour le Seigneur. Mais le Seigneur va juger nos œuvres. Ceux qu'il considère qui sont bonnes, il va nous donner une récompense pour ça, mais il va les examiner avec son regard de flamme. Son regard de flamme, ça veut dire qu'il va juger les intentions, parce qu'il y a bien des choses que les hommes peuvent percevoir comme étant des bonnes choses qu'on a faites. Puis si le Seigneur te montrerait la raison pour laquelle ta motivation n'est pas bonne, Donc, ça peut arriver que le Seigneur rejette certaines de tes œuvres. Donc, le jugement du tribunal de Christ, ça va être nos œuvres qui vont être jugées. Et aussi, bien entendu, on avait vu, on était rendu là, les œuvres des injustes. À quelque part, tous les êtres humains qui ont passé sur la terre depuis le début, leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, leurs omissions, leurs fautes secrètes, tout va être exposé publiquement et les hommes ne pourront pas s'en tirer avec des avocats. Les choses vont être vues, comme on pourrait dire, crûment. Ils vont vraiment voir les vraies choses qui se sont passées sur la terre. Donc, on était rendu là, on était rendu au verset 13, le deuxième point. Le jugement dernier, c'est critères. Ça dit dans le verset 13, « Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Donc, le critère, c'est vraiment celui de l'universalité. Il n'y a pas un être humain qui va s'en tirer, peu importe la mort, la façon dont il est mort, l'époque dont il est mort, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ça n'a aucune importance, ils vont tout passer. Donc, le critère de l'universalité. Juste le fait de penser que nos pensées vont être jugées. Si les êtres humains, on voyait les uns les autres les pensées qu'on a, je peux vous dire une chose, les cheveux nous dresseraient de sa tête. Alors, je suis convaincu. Alors, les pensées, les actions, les paroles, les omissions, les fautes secrètes. Qu'est-ce qu'on entend par une faute secrète? Une faute secrète, c'est-tu quelque chose qu'on a fait alors que personne ne nous a vu? Ou si c'est pas d'autre chose? Les fautes secrètes, là, dans le salon des Écritures, c'est des péchés qu'on commet qu'on n'a même pas conscient. C'est grave, là. Mais là, le Seigneur va nous les montrer, va les montrer les fautes secrètes des gens. Des péchés qu'ils ont faits dont ils ne sont même pas conscients. Les gens vont dire, « Quoi? Tu péchais, ça? » Il va te le montrer que c'est quoi que le péché. Il va t'en montrer tellement que les autres vont avoir peur, toi-même tu vas avoir peur. Alors le critère de l'universalité, il y a le critère aussi de la résurrection corporelle miraculeuse. À quelque part, quand on s'arrête à regarder ça, quand ça nous dit que ceux qui sont morts en mer. Regardons quelques exemples. Pour bien illustrer ça, je pense qu'il faut prendre l'armée de Pharaon. Quand l'armée de Pharaon a rentré dans la mer, que Dieu a ouvert la mer, que le peuple a passé, l'armée de Pharaon était là et le Dieu dit qu'il a fermé la mer et ils se sont toutes fait engloutir vivants. Ça fait beaucoup de monde. Ensuite, on peut prendre un autre exemple. On peut prendre l'exemple de la traversée de la mer Rouge, Pharaon, et l'autre personne, il y en avait deux, il me semble. Déluge universel, ben oui, déluge universel, c'est un autre, celui-là est encore plus gros que le, parce que le déluge universel, dans Genèse 6, ça dit que l'être humain était rendu méchant, toutes les pensées de leur cœur n'étaient que pour le mal, et le Seigneur avait décidé de détruire tous les êtres humains, y compris les animaux, excepté ceux qui rentraient dans l'arche, et les huit, les Noé, sa femme, et ses trois fils et leurs épouses. Le reste, là, on évalue, si je me souviens bien, quand on avait fait cette partie-là de la Genèse, il me semble que c'est quelques millions de personnes qu'il y avait déjà sur la Terre à ce moment-là. Quelques millions de personnes. Imaginez, ils ont tous été engloutis, toute la gang. Il n'y en a pas un qui s'en est sorti. On en fait des morts dans la mer, ça. Ça veut dire que... Donc, à quelque part, juste le fait de penser que des gens... qui ont été dans la mer, ils se sont décomposés, sont toute la gang décomposée, à part de ceux qui sont tombés, à part de ceux qui ont eu les guerres de bateaux, ce que tu voudras, ça fait énormément de monde qui sont morts engloutis dans l'eau. Là. Le Seigneur, il dit que ceux-là, là, il va les ressusciter. Il y a bien des gens, parce que des fois, tu regardes des films de guerre, là, les avions japonais qui se promènent, puis là, il y a un gros bateau en bas, des bateaux anglais ou américains, puis il garochait une bombe dessus. Paf! Tout ce monde-là s'engloutissait dans la mer. Mais s'il y a une bombe qui tombe dessus, là, le bateau, il explosait, t'es dessus, toi, là. Là, c'est plus juste ton corps qui s'en va dans la mer, là. C'est des morceaux de ton corps qui s'en vont tout partout. Mais quand on parle de miraculeux, prendre juste les gens qui sont morts dans la mer et que le Seigneur, qui sont morts de toutes sortes de façons, toutes sortes de façons, et le Seigneur va toutes les ressusciter. Il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. Puis quand les gens, tu leur comptes des pareilles affaires, les gens aujourd'hui vont dire, mais oui, on n'en tient pas de bout. Si quelqu'un était brûlé, il est brûlé, il ne pourra pas revenir à la vie, il ne pourra pas revenir avec son corps. C'est de mal connaître, très très mal connaître la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Il est capable de prendre les atomes éparpillés de qu'est-ce qui composait un être humain puis de le refaire. Il n'y a aucun problème pour le Seigneur de faire ça. Alors quand on parle des résurrections miraculeuses, là je pense qu'il faut vraiment essayer, on pourrait donner une multitude d'exemples, mais dans le fond il suffit de savoir que le Seigneur est capable de faire ces choses-là. Aussi, il faut mentionner le fait que certains commentateurs parlent de la mer comme étant un symbole de l'ensemble des êtres humains qui ne sont pas régénérés. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs passages que tu pourras aller voir où on parle de la mer, et la mer a un symbole. Alors, moi, je pense que ici, c'est vraiment les morts physiques, là. Mais ça n'exclut pas non plus l'idée que la mer, c'est quelque chose de symbolique qui représente les non-sauvés. Et il y a une chose importante qui s'est dit là-dedans, la mort et l'enfer. Bien entendu, dépendamment de la version que vous avez, on ne traduira pas nécessairement la mort et l'enfer, mais ça dépendamment de comment... Moi, je prends la version Osterval, donc c'est vraiment la mort et l'enfer. Tous les êtres humains qui sont morts, et dans leur tombeau, qui sont dans leur état intermédiaire. Actuellement, tous ceux qui sont décédés là, sont dans un état, oui, ils sont dans leur, jusqu'à un certain point dans leur destinée éternelle, mais pas dans l'état final dans lequel ils vont être. C'est que ceux qui sont décédés actuellement sont au ciel pour ceux qui sont sauvés, les autres sont dans un lieu intermédiaire, puis l'enfer. Mais ils n'ont pas encore leur corps. Mais Dieu veut que lorsqu'il va ressusciter les êtres humains, il va les réunir avec leur corps et ils vont passer leur éternité, soit dans le ciel, soit dans l'enfer, avec le corps et l'âme unis. Très important de le réaliser. Donc, eux autres aussi, la mort et l'enfer reviennent à la vie. C'est vraiment... Tous les êtres humains qui sont décédés, soit naturellement, depuis que je suis arrivé, l'autre jour, je parlais de ça avec ma femme, le nombre de personnes qui sont décédées qu'on connaît dans notre église même. Quand on va au cimetière, puis qu'on dit publiquement, le corps de, on nomme son nom, un jour va être ressuscité, ça va dans la terre, là. On le voit, la terre, il tombe dessus, là. On sait très bien qu'elle va pourrir là. Mais on dit que le corps de cette personne-là va être réuni avec son âme. Et pas le corps qu'elle avait quand elle est décédée. Un corps, comme ça dit dans 1 Corinthiens 15, un corps nouveau. Donc, tous les êtres humains vont être ressuscités, peu importe la manière dont ils sont décédés, qu'ils soient naturellement, que ce soit par noyade, que ce soit par accident, que ce soit brûlé, ceux qui sont morts... Prenez juste l'exemple de Nagasaki, la bombe atomique. Hey, ils ont été vraiment là, grillés. La Bible dit que les corps de ces personnes-là, Dieu va les ressusciter. Il y a quelque chose de vraiment miraculeux parce qu'on ne s'arrête pas des fois à réfléchir à tous les aspects de ça. Il y a vraiment le critère aussi du péché et aussi le critère de celui des bonnes actions des hommes. Et chacun, parce qu'on parle que tout le monde est là, les justes, les injustes, chacun fut jugé selon ses œuvres. Jean 6, versets 39 et 40 et verset 54. Et ici, il faut se rappeler que c'est les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur dit, « Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Combien vous en connaissez de personnes chrétiennes qui sont décédées? J'avais commencé chez nous, je pense que je vais le faire encore. J'ai un cahier et toutes les personnes que j'ai connues chrétiennes depuis 43 ans, je marque le nom dedans. Et la liste commence à s'allonger pas mal. Mais ces gens-là sont au ciel. Mais juste avec l'âme, juste l'âme. Mais un jour, ça dit que le corps va être réuni et ils vont persévérer dans l'état dans lequel ils étaient, mais avec leur corps. C'est ça le côté intéressant là-dedans. Donc, on a les paroles de Jésus, on a les paroles pécheresses aussi, parce que dans notre vie chrétienne, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte comment on a la langue sale. Je me souviens d'avoir déjà fait un sermon à un moment donné, j'étais à Lenoxville à l'époque, j'ai fait un sermon sur la langue. Puis, il y en avait un qui n'avait pas été capable de se retenir. Je parlais de la langue, il dit « C'est vrai qu'on a la langue sale. » Si on s'examine le moindrement, on se rend compte que c'est vrai qu'on a la langue sale. On fait énormément de péchés par la langue. Énormément. Si Dieu prenait nos paroles d'une journée, puis nous les faisait entendre vraiment, là, en nous ouvrant l'esprit sur ce qui est péché dans ce qu'on a dit, on serait surpris de voir comment il y en a. On serait même très surpris. On pêche énormément par la langue. Ça dit dans Jacques, est un petit membre, mais elle fait du ravage, animé du feu de la géhenne que la parole nous dit. On a toute la langue sale. Puis la Bible dit que même si on essaye de s'en corriger, là, on ne sera même pas capable. C'est Dieu lui-même. C'est une grâce. Ce matin, on priait avant le... Puis c'est ça que je voulais partager ce matin, le petit groupe qu'on était pour prier. C'est que plus tu grandis dans la foi chrétienne, plus tu t'approches de Dieu, plus tu te rends compte de ta nature pécheresse, puis plus tu vois l'étendue, puis la profondeur de tout ça, puis plus ça t'écœure. Tu voudrais être parfait, tu voudrais arrêter de pécher, mais tu n'es pas capable. T'as beau essayer, tu n'es pas capable. Pourquoi on n'est pas capable? C'est parce que ça prend la force de Dieu, ça prend la grâce de Dieu. Plus on grandit dans la sanctification, je pense, plus on s'approche de Dieu, plus on comprend dans la sanctification, plus on sent qu'on a besoin du Seigneur. On a besoin plus que jamais, puis plus on s'approche de la... On grandit dans la foi, on se rend compte, « Mais Seigneur, je ne suis pas capable de rien faire sans toi, rien, zéro! » C'est spécial, hein? Donc, les paroles pécheresses, ça dit dans Matthieu 12, 36, « Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles, tu seras condamné. » Ça devrait... C'est des paroles qui sont vraiment à réfléchir énormément. Les actions pécheresses dans Ecclésias, chapitre 12, verset 16, ça dit, « Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Maintenant, il y a les secrets des pécheurs. On sait que les pécheurs ont des secrets. Comme on dit, il y a des squelettes dans ton placard. On en a toutes, des squelettes dans notre placard. Romains, chapitre 2, verset 15. « Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. » Les secrets des pécheurs. Tu sais, aujourd'hui, il se passe un paquet de choses, soit en politique, soit dans n'importe quel domaine. Des fois, on fait des affaires, puis on les a faites un petit peu en secret, tu sais, on se cache. Le Seigneur, voici ce qu'il dit. « Car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, ni rien de caché qui ne doive être connu et venir en évidence. » On va voir ça au jugement. C'est assez particulier. Quand j'ai préparé cette leçon-là, je me suis souvenu que j'avais lu dans un livre de théologie, Wayne Grudem, Parce que souvent, j'ai entendu, depuis quelques années, souvent à plusieurs reprises, il y a comme une incompréhension sur la question du degré de souffrance dans l'enfer. J'ai entendu souvent que les gens perçoivent qu'il n'y aura pas de degré de souffrance, que l'enfer est la même pour tous. Je pense que c'est une erreur. Et j'ai voulu aller sortir la partie du livre de théologie dans lequel il parle qu'il y a des degrés dans la punition et aussi des degrés dans la récompense. Je vous lis les degrés de punition des incroyants. Je vous lis ce que Wayne Grudem dit lui-même. J'aurais pu le résumer, mais j'aime autant le laisser le dire dans ses propres mots. Ce jugement des incroyants comportera des degrés de punition, car nous lisons que les morts furent jugés chacun d'après ses actes. Ce jugement, en fonction de ce que les gens ont fait, doit comporter une évaluation de leurs actes. De la même manière, Jésus déclare, « Le serviteur qui sait que son maître veut de lui, ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé et qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un jugement plus rigoureux. » Pardon? Qui aura commis des actes, bon, c'est ça. Il n'avait pas su ce que son maître voulait. Ensuite, quand Jésus dit aux villes de Chorazin et de Bethsaïda, au jour du jugement, les villes de Tyr et de Sidon seront traitées avec moins de rigueur que vous. Ou quand il dit au sujet des scribes que leur condamnation n'en sera que plus sévère, il laisse entendre qu'il y aura des degrés de punition au dernier jour. Donc, c'est pas tout le monde qui va subir le même sort en enfer. Plus tu as fait de mal, plus ta condamnation va être sévère et plus ta condamnation va être difficile, dure. Maintenant, s'il y a des degrés de punition, il y a aussi des degrés de récompense. On va regarder ce qu'il dit concernant les degrés de récompense, c'est important. L'Écriture enseigne également qu'il y aura des degrés de récompense pour les croyants. Paul encourage les Corinthiens à veiller à la façon dont ils construisent l'Église sur le fondement qui a déjà été posé, Jésus-Christ lui-même. On peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Donc, autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a des hommes qui vont avoir été sauvés, mais dans les œuvres qu'ils ont faites, il n'y a pas grand-chose qui va résister au jugement de Jésus. Paul, de la même manière, dit en parlant des chrétiens, que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient, selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Ce qui implique aussi des degrés de récompense pour ce que nous avons fait dans cette vie. De même, dans la parabole des pièces d'or, le maître dit à celui qui a gagné 10 pièces d'or, « Je te nomme gouverneur de 10 villes, et à celui qui en a gagné 5 de plus, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Beaucoup d'autres passages enseignent ou laisse entendre des degrés de récompense pour les croyants au jugement dernier. Troisième point qu'on voulait regarder, c'est celui de la colère, versets 14 et 15, le jugement dernier, donc la colère de Dieu. Quand on parle de la colère divine, on parle de la haine infinie du péché par le Seigneur. Ça, pour nous autres, c'est difficile à imaginer parce qu'on n'haït pas le péché de façon infinie, nous autres. On l'haït, là. Je ne peux pas dire que je ne l'haït pas, je l'haït. Très sérieusement, je l'haïs. Je suis sûr que vous tous aussi, vous l'haïssez. Mais si vous comparez la haine que vous avez du péché à celle de Dieu, elle n'a aucune commune mesure, aucune commune mesure. Versets 14 et 15. « Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc, on va commencer, la première chose qu'on va regarder, c'est la colère divine qui est définie. On avait déjà mentionné que les saintes Écritures enseignent que le dernier ennemi de Dieu soit la mort et qu'elle sera la dernière à être détruite. On a vu tantôt tout ce que le Seigneur avait détruit. Il restait une chose à détruire, c'était la mort elle-même. Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 et 26, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. » Alors, le théologien Wayne Grudem définit la colère de Dieu de cette façon-là, dans son livre à la page 207. La colère de Dieu peut être définie comme suit. La colère de Dieu signifie qu'il hait profondément le péché, même, je dirais, infiniment le péché. Il hait infiniment le péché. C'est énorme. La haine du péché par Dieu est infinie et difficile à comprendre pour nous. Cependant, nous imitons Dieu lorsque nous éprouvons de la haine contre le mal, l'injustice et le péché. Nous devons lui être reconnaissants pour la patience dont il fait preuve en retenant cette colère afin qu'encore plus de pécheurs puissent être sauvés. Quand on pense à nos propres péchés, disons que vous regardez cette semaine, disons, prenons la semaine dernière. Est-ce que vous croyez que c'est vrai que le moindre du plus petit de nos péchés nous mériterait d'être plongé vivant dans le lac de feu? Un! Pas tout ce que vous avez fait la semaine passée, là. Un seul péché de ce que vous avez commis, disons, la semaine dernière. Vous mériterez d'être plongé vivant dans le lac de feu. On peut-tu avoir une autre réaction que celle de louer le Seigneur? Dire, la semaine passée, j'ai peut-être mérité l'enfer des dizaines, peut-être même des centaines de fois. Puis je t'ai encore sauvé. La seule chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est de le confesser. On le confesse, puis il dit qu'il nous pardonne. Pourquoi il nous pardonne? Parce qu'il nous trouve fin, il nous trouve gentil. Ah, ben là, il n'est pas pire. Non. C'est parce que Jésus-Christ a payé pour ce péché-là. Il a payé pour tous tes péchés. Les péchés que je vais commettre d'ici à la fin de mes jours, là, le Seigneur les connaît tous. Puis dans sa providence, dans son omniscience, il les connaissait tous. Puis il a accepté de subir le châtiment que chacun de mes péchés, peu importe la nature, en pensée, en parole, en action, en omission, il a payé pour. Fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on pense, la semaine passée, j'ai péché. Vous avez tous péché, vous autres aussi. Vous auriez mérité d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Pourquoi vous n'y allez pas dans le feu? Parce que Christ a payé pour. C'est là que ça nous revient, la grâce du Seigneur. Si le Seigneur n'était pas là, là, on serait les plus malheureux des hommes. Ça serait terrible. Parce qu'on commence à comprendre c'est quoi un petit peu la haine que le Seigneur a du péché. Quand on pense qu'un seul péché mériterait d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité, ça nous fait prendre conscience un petit peu de l'étendue et de la profondeur de la sainteté de Dieu. Il faut qu'un Dieu soit d'une sainteté extrême pour exiger qu'un pécheur soit plongé dans le lac de feu pour l'éternité pour un seul péché. Il faut que sa sainteté... Il n'y a rien qu'une façon de comprendre l'enfer. C'est la sainteté de Dieu. Parce que moi, moi, dire une affaire, disons que je prends... quelqu'un t'a connu dans ta famille, un frère, une soeur, une mère, un oncle, une tante. Puis disons qu'il meurt, puis il n'est pas sauvé. On n'imagine pas jusqu'où le malheur qui atteint son âme, puis qui va avoir son corps pour l'éternité. On n'imagine pas. Vraiment, on n'imagine pas. À quelque part, oui, vraiment, on se devrait toujours de se rappeler, quand on pêche, qu'un seul de n'importe quelle sorte de péché qu'on a commis nous aurait mérité d'aller là pour l'éternité. Alors, ça nous montre la haine du péché de Dieu. Pour un seul péché que tu aurais fait dans ta pensée, Dieu pourrait te condamner à l'éternité en enfer. C'est extraordinaire. La colère divine a été définie, on vient de le voir. Colère divine évitée. Seuls les pécheurs qui ont été réconciliés avec Dieu éviteront la damnation éternelle en enfer. Quand on lit le verset 2 Corinthiens 5, verset 20-21, « Réconciliez-vous avec Dieu. » On parle que les deux aspects du salut sont bien décrits dans ce verset-là. C'est très important. Gardez-le en mémoire, ce verset-là. C'est le verset qui résume l'Évangile. On dit souvent l'Évangile en capsule. Si vous voulez parler d'évangélisation à quelqu'un puis vous ne savez pas quoi, allez à 2 Corinthiens 5, 20-21. Tout est là, dans un seul verset. L'Évangile en capsule, une petite capsule, un petit verset, mais tout est là. Toute la vérité de l'Évangile est là-dedans. On va les lire, justement. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17-21. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Versets 20 et 21, c'est les deux versets que je veux que vous vous rentiez dans l'esprit. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » On est tous, comme chrétiens, des ambassadeurs pour Christ. « Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché... Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Le verset 21 explique l'Évangile en une seule phrase. Il faudrait rentrer dans les détails, là, mais on ne rentrera pas aujourd'hui, là, mais il reste que tout est là. Seule la grâce souveraine de Dieu épargnera ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ et se seront repentis. Et encore là, il faut se souvenir que c'est la grâce souveraine. Donc, la grâce, c'est quelque chose qui t'est donné, pas quelque chose que tu mérites ou quelque choix que tu as fait. C'est Dieu te l'a donné. Il n'y a pas de petit bretelle avec ça. Alors, le fait d'être écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé, depuis toute l'éternité, délivrera les croyants de cet endroit qu'est l'enfer éternel, si terrible et si terrifiant. C'est parce que, moi, j'ai l'impression des fois que le mot « grâce », le mot « enfer », à un moment donné, on les a prononcés tellement souvent qu'ils viennent un temps qu'ils sont comme usés. On perd la signification profonde de ces mots-là. Apocalypse, chapitre 13, versets 7 et 8. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et dans le verset, il nous montre aussi que la double mention de l'étang de feu nous confirme l'existence réelle et infiniment redoutable de cet endroit. Voyons-le comme un appel urgent à la repentance. Pas penser, moi, à Jonathan Edwards, avec son sermon célèbre, le plus célèbre, le sermon le plus célèbre de toute la terre, le Dieu en colère. Lui, la manière dont il est rendu, qu'il était vivant, il vivait uniquement en fonction qu'il voyait les hommes comme marchant sur un plancher de bois pourri. Imaginez-vous si on serait vraiment dans cet état d'esprit-là. Tu vois tout ce qui se passe autour de toi comme étant les gens qui se promènent, ils se rendent pas compte jusqu'à quel point ils sont proches peut-être de tomber dans l'éternité. Si on était comme ça, ça voudrait dire qu'on ne manquerait jamais une occasion de partager l'Évangile autour de nous. Pourtant, on en manque souvent. Soyons sincères, là, on en manque souvent. Alors, trois applications que je vois à partir de ce texte-là qu'on a étudié. La première, implorons le Seigneur de nous faire réaliser la solennité et l'extrême gravité du jugement dernier. C'est un puissant révélateur du caractère de Dieu, sa souveraineté, sa toute-puissance, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence, sa grâce, son amour, sa miséricorde, sa sévérité, sa patience. Et là, il faudra faire un cours de théologie complet. C'est aussi un puissant révélateur de la gravité du péché. Donc, ça révèle à la fois le caractère de Dieu et à la fois la gravité du péché. Deuxième application, glorifions le Seigneur pour nous avoir sauvés en nous écrivant dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécial à réfléchir. Ton nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé. Tu n'existais même pas, puis Christ n'était même pas encore venu sur la terre. Là, on rentre dans les grands concepts de théologie. C'est un privilège insondable que d'être un élu de Dieu. Oh oui. Troisièmement, prions pour être davantage conscients de deux réalités. Les merveilles d'avoir nos péchés pardonnés et d'avoir la vie éternelle dans la félicité du ciel et l'horreur indescriptible de l'enfer. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit adoré éternellement pour son amour envers nous. Amen. Amen.